La première.
13h30, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes au printemps 1314 à Cerisy en Normandie. Samson, Vautier, Jeanne, fille d'Henri Étienne, sont dénoncés comme concubins notoires au tribunal ecclésiastique. Les jeunes gens nient les faits, mais reconnaissent que le bruit en court et s'engagent alors à se séparer. Le juge les avertit, s'ils habitent à nouveau ensemble dans la même maison, seul à seul, dans un lieu où ils pourraient être soupçonnés de rapports charnels, ils consentent dès à présent à être considérés comme mariés femmes vivant maritalement l'un avec l'autre. Le délit est religieux parce que commis contre le sacrement du mariage, mais c'est l'ensemble de la communauté qui est concernée puisque le péché de l'un est susceptible d'allumer la colère divine contre tous ceux qui l'ont toléré. Quelles sont les multiples formes qu'a pris le couple à travers les siècles? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Un jour dans l'histoire.
13h30, 14h30 sur la première.
Les courtisanes. Nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins de tous les jours, et les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer.
Et voilà ce que disait Démosthène, un philosophe et homme politique de la Grèce antique. C'est extrait ici d'un documentaire qui s'appelle « La grande histoire du couple ». Pour évoquer donc cette histoire, Jean-Claude Bologne est avec nous. Bonjour Jean-Claude Bologne.
Bonjour.
Et vous êtes l'auteur aujourd'hui d'un ouvrage qui s'appelle tout simplement « Histoire du couple chez Perrin ». Alors, la première des questions qu'il faut se poser, c'est peut-être la plus difficile, c'est qu'est-ce qu'un couple au fond, Jean-Claude Bologne?
Tout dépend du but de cette question. L'INSEE, qui désormais prend en charge les statistiques du couple et non plus seulement du mariage, a résolu la question en disant un couple, ce sont deux personnes qui répondent oui à la question « vivez-vous en couple ?» Ça se mord un petit peu la queue. Mais le couple, en fait, n'a pas de définition en soi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut deux personnes. Ces deux personnes ne vivent pas nécessairement ensemble. Il y a des couples non cohabitants, n'ont pas nécessairement une vie sexuelle sentimentale ensemble. Il y a des couples d'amis, il y a des couples de patineurs. Et dès que l'on veut choisir une statistique, on fait un petit peu par élimination et tout dépend du but de ces statistiques. Alors, est-ce qu'on peut définir le couple sociologiquement plutôt que par statistique? Il y a eu pas mal de critères qui ont été proposés. Deux adolescents qui échangent le premier baiser se sentent en couple. Est-ce que le couple, c'est le moment où on s'établit ensemble? Est-ce que le couple, c'est le moment où on a un compte en banque commun? Jean-Claude Kaufmann a proposé comme définition, et ce n'est peut-être pas plus mauvais qu'une autre, le moment où l'on commence à laver ensemble son linge, le partage du lave-linge, est une forme d'intimité peut-être beaucoup plus grande que la simple cohabitation, et c'est peut-être une définition du couple. Donc voilà, énormément de définitions, mais on ne dit pas tout à coup, tiens, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en couple. Ouais.
Et au regard de l'histoire aussi, la réponse est complexe, contradictoire parfois. Les historiens s'entendent sur la prédominance du couple à la fin du néolithique. Avec la sédentarisation, les sociétés sont plus pacifiques, la polygamie étant plus appropriée au nomadisme guerrier. Donc, quand la Bible et le Coran, comme texte sacré, s'expriment sur la question, le couple, on peut le dire, déjà quelque chose de bien établi. C'est une notion qui existe.
Tout à fait. Le couple précède l'histoire et d'ailleurs, en général, le mariage, qui est une forme de couple parmi d'autres, précède aussi l'histoire. Toutes les cultures qui nous ont laissé des textes ont connu une forme de couple institutionnalisé. Donc, il est très difficile de faire une préhistoire du couple. On a effectivement des indices. Le fait que lorsqu'on retrouve des pieux de fonds de cabane Les cabanes sont plutôt faites pour une vie en cellules étroites, cellules familiales, élémentaires, couple et enfants, plutôt que de grandes cases communes. Les tombes, en revanche, peuvent être des tombes collectives. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une vie collective ? On n'en sait rien. Mm-hmm. On a retrouvé une tombe avec un homme et deux femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait polygamie ? On n'en sait rien. Donc on est appelé à élargir, extrapoler à partir d'indices qui sont relativement peu fiables et relativement contradictoires. Mais effectivement, on s'entend sur le fait qu'au néolithique, on se sédentarise et la vie de couple commence.
Alors, avec en plus souvent, toujours d'ailleurs, une dimension religieuse, morale, politique, mais ce qu'on constate quand même, les historiens semblent assez d'accord là-dessus, c'est de dire que l'enjeu patrimonial, économique, c'est une donnée essentielle de la formation du couple.
Alors, l'enjeu patrimonial est essentiel essentiellement pour le mariage, mmh. c'est-à-dire le couple qui va définir des enfants légitimes. On entendait tout à l'heure Démosthène, l'homme peut former différents couples, mais s'il est avec une courtisane, une étaïre, s'il est avec une concubine, il n'aura pas d'enfants légitimes et théoriquement ne pourra pas leur transmettre un patrimoine. Donc il faut qu'on établisse une forme de couple officiel. Pour cela, il faut que ce couple soit relativement durable, même si le divorce et la répudiation existent. Et donc il faut sacraliser le couple. Et il y a une sacralisation du couple marié qui n'apparaît jamais dans les autres formes de couple. Mais ces autres formes de couple existent. Mmh. Et c'était un peu mon projet de recentrer l'histoire du mariage à l'intérieur de l'histoire du couple et de montrer que, en fait, le couple n'est pas une exception au mariage. On a toujours l'impression que le concubinage, toutes les autres formes de couple, le couple homosexuel, sont des exceptions à l'intérieur d'une institution matrimoniale. Et en fait, c'est le mariage qui est un cas particulier du couple. Et c'est cette inversion de regard que j'ai essayé de mettre en évidence.
Et c'est ce qu'on va développer avec vous maintenant, Jean-Claude Bologne. La plupart des cultures ont mis l'instauration du couple donc à l'origine de la civilisation, dites-vous dans votre ouvrage. C'est à Athènes que commence notre histoire. On va maintenant s'y précipiter.
Et Bertrand de Rolls, comme vos parents l'ont décidé, apporte en dot 30 arpents de blé, 40 arpents de millet au lieu dit la pomarède, une paire de bœufs de labour et les bois de Roussas, trois robes rouges, un lit et deux coussins de plumes, un coffre fermant à clé, c'est tout. Si vous êtes toujours d'accord, vous signez ici.
Les enfants, il faudra nous faire de jolis petits.
Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez le faire sans moi.
Un jour dans l'histoire.
Un petit détour ici par le Moyen-Âge avec ce fait divers hein, adapté à l'écran par Daniel Vigne, le retour de Martin Guerre où un homme revient de guerre, se fait passer pour l'époux de Bertrand. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est tout l'enjeu de l'histoire. Alors restons donc, revenons à l'Antiquité, à Athènes avec vous Jean-Claude Bologne. Donc les courtisanes, nous les avons pour le plaisir, dit Démosthène, les concubines pour les soins de tous les jours, les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne du fidèle du foyer. C'est pas une boutade, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de couple en effet à Athènes.
Tout à fait. Et le plus étrange, c'est que même pour les Athéniens, il est parfois difficile de les distinguer. Alors, Athènes, ce n'est pas l'ensemble de la Grèce. C'est un cas assez particulier. C'est une ville dans laquelle la notion de citoyenneté est essentielle. Et c'est une ville dans laquelle il y a des gynécées, c'est-à-dire que l'épouse est dans ses appartements distincts des appartements publics et cloîtrés, tandis que la concubine est la compagne de tous les jours et que la courtisane, l'étaïre, est là pour donner le plaisir. Cette courtisane n'est pas une prostituée. Il y a en plus les prostituées de bas étage, les danseuses, les joueuses de flûte, celles qu'on prend pour un soir. L'étaïre, la courtisane, peut avoir, entretenir une relation longue. C'est un peu la geisha japonaise qui a une certaine culture, qui peut aider à recevoir des amis. Et le statut entre ces trois types de femmes n'est pas toujours aussi clair que Démosthène veut bien le dire. Et on s'en rend compte notamment lorsqu'il y a un héritage. Parce que dès qu'il y a des sous à partager, effectivement, on commence à se disputer et on se demande si celui à qui on doit partager les sous est bien fils d'une femme légitime. Or, comme il n'y a pas dans la Grèce classique de contrat de mariage, de documents écrits, on est obligé de s'en référer à des indices plus ou moins fiables. Cette femme était mariée deux fois et son premier mariage était légitime. Donc ça veut dire que le deuxième doit aussi l'être puisque la légitimité est liée à l'état de la femme. Oui, mais le père était débiteur public, il avait des dettes, donc il n'a pas pu payer de dot à sa fille, donc le mariage ne peut pas être légitime. Et toutes les plaidoiries de Démosthène en particulier sont pleines de ces petits détails croustillants du quotidien pour simplement savoir si le mariage était légitime ou si la femme n'était qu'une concubine. Alors, il y avait des enjeux économiques étaient importants, il y avait aussi des enjeux sacrés, puisque dans la démocratie grecque, les fonctions principales et notamment les fonctions suprêmes tournaient relativement vite. Chaque jour, on pouvait élire le représentant, le chef de la boulée, il y avait des fonctions religieuses qui pouvaient échoir absolument à n'importe qui. Et elles ne pouvaient échoir qu'à des gens qui étaient légitimement athéniens. Donc si une concubine prenait part à des cultes publics destinés à des Athéniens, il y avait un véritable scandale. Donc il y a ces enjeux-là, il y a les enjeux du nom, on porte le nom de son père, on porte le nom de son dème, de sa tribu, et tout cela s'établit par le mariage.
Dans l'Antiquité romaine, plusieurs tribus se sont réunies autour de Rome, autour de lois communes. L'institution matrimoniale est marquée là aussi par le caractère sacré, béni des dieux, par aussi son caractère conforme au droit. Le droit est important chez les Romains, mais tout le monde n'a pas droit au mariage. C'est ça, seule l'élite, les patriciens y ont droit.
Voilà, alors pour se marier, il faut ce qu'on appelle le connubium, le droit au mariage, la possibilité d'avoir de justes noces. Dans justes noces, il y a juste le droit. Et cela, il diffère un petit peu selon les tribus. Encore une fois, le mariage le plus solennel a une composante religieuse importante. Or, toutes les tribus n'ont pas les mêmes dieux, et notamment la triade capitoline qui réunit les dieux des patriciens. Les plébéiens ne peuvent pas se référer à cette triade capitoline, et donc sont obligés d'inventer d'autres types de noces qui ont aussi un effet en droit, donc qui sont aussi de justes noces, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Et Rome, qui a un esprit très légaliste, est allé très loin là-dedans. Il y a une bonne dizaine de façons de s'unir différentes à Rome. La plus solennelle, ce qu'on appelait la confarreatio, le partage d'un gâteau, qu'on appelait phare, le partage d'un gâteau sacré en l'honneur du Jupiter capitolin, était tombé pratiquement en désuétude. Il n'y avait plus qu'une seule personne à Rome qui se mariait obligatoirement de cette façon-là, c'était le Flamine de Jupiter. Sinon, le mariage le plus solennel était tombé en désuétude sous la République. Et, en revanche, si on va exactement à l'autre bout, les esclaves n'ont pas le droit de se marier. Ils forment ce qu'on appelle un contubernium, donc un partage de tentes, une simple cohabitation, qui est distincte du concubinat qu'on peut proposer à une femme de condition inférieure, qui est distincte du mariage par achat symbolique qui se pratiquait dans les classes plébéiennes, etc. Et donc, il y avait toute une série de façons de vivre ensemble, de couples, qui pouvaient passer par différentes formes de mariage ou de non-mariage.
Et Auguste va vouloir remettre un peu d'ordre là-dedans, dans toutes ces formes diverses de mariage.
Alors, Auguste a essayé de moraliser le mariage, a pris des lois contre le célibat, a pris des lois contre certains types d'unions indignes. Ça a parfois un petit peu compliqué les choses, notamment pour les classes les plus aisées, paradoxalement, qui n'avaient plus les mêmes avantages au mariage. Bon, c'est un petit peu plus complexe, je ne vais pas vous le résumer, mais les lois de moralisation d'Auguste ont finalement introduit presque plus de désordre au sein du mariage, et notamment les célibataires qui n'avaient plus le droit d'hériter ont fait des sortes de mariages blancs ou des mariages quelques heures avant la mort de ceux dont ils devaient hériter pour divorcer juste après. Et il y a eu, après les réformes d'Auguste, encore plus de scandales dans la morale du mariage. Ce qui était le plus déroutant notamment, c'est que le droit au mariage n'était pas permanent. C'est-à-dire que les soldats, par exemple, n'avaient pas droit au mariage, mais avant d'être soldat ou après être soldat, ils pouvaient avoir droit au mariage. Et là, selon les enfants qui étaient nés pendant leur service militaire, où leur femme était considérée comme concubine, ou après le service militaire, ça pouvait avoir des conséquences importantes sur la citoyenneté romaine. Donc une complexité énorme à Rome, mais tout cela rentrant dans des lois, parce que le Romain avait l'esprit extrêmement juriste.
Et on va voir avec vous, Jean-Claude Bologne, comment les 20 siècles de chrétienté vont sacraliser véritablement le couple et faire du mariage, pendant en tous les cas de longs siècles, le modèle unique d'union. Nous sommes avec Jean-Claude Bologne.
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
Pourtant, il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là.
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ?
Et il m'a...
Quoi ?
Pris...
Hein ?
Le...
Peut-il ?
Je n'osais... Vous vous fâcherez peut-être contre moi ?
Non.
Si fait...
Oh, mon Dieu, non.
J'aurai donc votre foi.
Ma foi, soit.
Il m'a pris. Vous serez en colère.
Non.
Si.
Non, 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 non. Diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris ?
Il.
Je souffre en damné.
Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Voilà, l'école des femmes, extrait ici d'une représentation avec Louis Jouvet. Les 20 siècles de chrétienté vont donc sacraliser le couple, Jean-Claude Bologne, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Ce qui ne va pas sans paradoxe, un accord des époux qui font le sacrement, mais impossibilité de rompre le contrat en cas de crise durable. Dualité entre chasteté et sexualité. Alors, on a écrit énormément de pages sur le mariage pendant ces 20 siècles de chrétienté. La conséquence, c'est que, au fond, on va inscrire dans les mentalités l'idée que le couple ne peut vivre qu'au sein du mariage en Occident. C'est une formule qui s'érige en modèle unique. Alors l'union d'un homme et d'une femme qui se choisissent en théorie librement, est-ce que c'est une manière, comme l'ont dit beaucoup d'historiens, une volonté de l'Église de bouleverser le mariage et par là de repenser les formules de transmission ?
Ça, c'était une hypothèse de Goody, effectivement, il y a un demi-siècle. À laquelle je ne peux pas totalement adhérer, de dire que le mariage devenant tellement complexe et entraînant parfois tellement de péchés à l'intérieur du mariage, ça a favorisé les héritages à l'Église, ça a favorisé une certaine forme de célibat, et donc des héritages qui revenaient à l'Église, et que ça a permis à l'Église de constituer de grands biens patrimoniaux. C'est peut-être une conséquence. Si ça avait été un but, je pense que ça aurait été beaucoup plus clair plus clairement dit dans certains textes. En tout cas, le plus grand paradoxe du mariage chrétien, c'est qu'il a été défini pendant 20 siècles, et surtout dans les premiers siècles, par des célibataires. Que ce mariage devenant unique et éternel, donc on n'a qu'une seule épouse, on doit théoriquement se marier vierge et on la conserve non seulement jusqu'à la mort, mais bien au-delà, si l'on croit à la vie au-delà de la mort. Et il faut aménager le mariage. Et toute la période chrétienne a été l'occasion d'une réflexion sur la façon de vivre en couple qui n'intéressait absolument pas l'Antiquité, ou très très peu l'Antiquité. Le couple dans l'Antiquité s'occupait de lui, c'était sa vie privée. Depuis 20 siècles, il y a des témoignages, des réflexions, des analyses sur la façon de se supporter, de vivre en couple, parce que on est marié pour la vie et on ne se sépare pas. Alors, Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette sacralisation du mariage, c'est d'une part, on a écarté tout le reste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les autres formes de couple deviennent des exceptions et finissent par se rattacher au mariage. Et toute l'histoire du concubinage au Moyen-Âge, qui est très très peu connue, ça fait 20 ans que je m'intéresse à l'histoire du couple, et il y a les aspects que je n'ai pas encore bien identifiés, cette histoire du concubinage va se réintégrer à l'intérieur du mariage. Alors, on cite toujours l'adage « vivre ensemble, c'est mariage », un concubinage est nécessairement une forme de mariage sous-entendu, mais ça a été parfois explicité et exploité légalement, notamment dans tout le nord de l'Europe, dès qu'on vivait ensemble pendant un certain temps, qui pouvait être bref, un an et un jour, 3 ans, parfois 20 ans, le mariage était sous-entendu, il n'avait pas besoin de l'officialiser. En revanche, dans le sud de l'Europe, il y avait une répression du concubinage beaucoup plus grande, mais le pouvoir civil avait instauré une sorte de concubinage civil, qui n'avait des effets qu'en droit civil, c'est-à-dire pour les héritages, mais il y a eu des contrats de concubinage, de braganir en Espagne, qui avaient des effets uniquement civils. Donc il y a eu une reconnaissance du concubinage, simplement, il adoptait petit à petit les formes du mariage où il devenait de facto un mariage. Et c'était plus loin aussi, toutes les autres formes de couple ont emprunté plus ou moins quelque chose au mariage. Alors, je pense par exemple à l'amour courtois. Mm-hmm. C'est un couple adultère. Ce n'est absolument pas un mariage, mais c'est une forme de couple. En revanche, toutes les exigences du mariage arrivent dans l'amour courtois, à commencer par l'exigence de fidélité, ce qui n'existait pas dans les formes de couple adultère antique de la même manière. La grâce qui descend sur les époux au moment des noces dans le mariage correspond à la joie qui illumine tout à coup l'amant adultère dans l'amour courtois. C'était la même chose dans les couples d'alliés. Mm-hmm. Notamment, il y a des formes de sociétés, ce qu'on appelait des frérèges, des affrèrements, des sociétés qui se font entre amis, entre commerçants, qui partagent les mêmes intérêts. Et là, les critères sont les mêmes que pour le mariage. Par exemple, il y a ce qu'on appelait des frérèges paisibles, donc qui ne se déclaraient pas. Et si vous habitiez pendant un an et un jour avec un associé, en partageant les biens, en partageant la boisson, eh bien, on était considéré comme affrairé, comme constituant un couple, et ça avait des effets sur l'héritage. Donc, la législation du mariage et la sacralisation du mariage a fini par s'étendre à toute une série d'autres formes de couple.
Et vous évoquez également dans votre ouvrage les amitiés masculines très fortes, hein, Montaigne par exemple, qui dit la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi, et vous dites que, au fond, ces amitiés amoureuses ou en tous les cas pas officiellement, mais peut-être masculines, au fond, auraient influencé l'idée du couple romantique.
Oui, oui, oui. Alors, il y a eu une double influence là-bas. D'une part, c'est ce qu'on appelait le compagnonnage en France. Donc des amitiés très fortes, souvent entre deux guerriers au départ, qui étaient en principe, et je pense le plus souvent, des amitiés spirituelles. On a beaucoup, on essayait dans les années 90 de faire croire qu'il y avait des sortes de mariages homosexuels. La cérémonie est très fortement influencée par la cérémonie du mariage, mais s'en distingue de façon aussi très nette. Il y a une sacralisation, ce sont des cérémonies qui se font à l'église, avec des serments, avec des engagements sur les mains droites, qui est la forme la plus solennelle de serment, mais chaque fois avec un petit décalage. Dans le rituel du mariage, par exemple, on entoure avec l'étole du prêtre les mains des mariés. Dans les cérémonies entre deux hommes, on les entoure avec une ceinture sacralisée. Donc il y a une façon de copier les cérémonies du mariage, mais de s'en démarquer. Donc il y a effectivement ces cérémonies cérémonie très solennelle d'union entre deux hommes qui ont des implications, y compris éventuellement dans l'héritage, y compris dans le mariage, parce qu'on ne peut pas se marier sans l'autorisation de son compagnon, et qui ne sont pas nécessairement des unions homosexuelles, qui sont des unions d'amitié très fortes.
Alors...
Et puis après, effectivement, c'est ce que vous disiez... Au sein de ces unions, il y avait une amitié beaucoup plus forte que l'on pouvait avoir avec une femme, avec son épouse, parce que les mariages étaient arrangés. Et le mariage romantique, sur lequel nous vivons encore grosso modo aujourd'hui, consiste à exiger de son conjoint la même amitié qu'il pouvait y avoir dans ses amitiés masculines au XVIe siècle.
Alors vous le dites de toute façon, hein, enfin, ce mariage moderne emprunte ses valeurs fondamentales à d'autres formes d'union, la volonté de partage harmonieux au couple d'amis, l'amour passionné au couple célibataire ou d'amant adultère, l'épanouissement sexuel au couple éphémère. La définition au fond du mariage est devenue très très exigeante, peut-être dissuasive, c'est la question que vous posez dans votre ouvrage, on n'aura pas le temps d'y répondre, mais vous dites le mariage pour tous est peut-être le signe le plus marquant de sa vitalité, c'est un sacré pied de nez. Merci beaucoup Jean-Claude Bologne d'avoir été
merci
avec
à vous.
Un jour dans l'histoire.
Jusqu'à 14h30 sur les premières.